l'ivresse des échanges.
Alcoolisme.
Groupe de parole.
L'expérience.
Espérance.
L'ivresse des échanges. Bonjour, vous êtes bien sur Studio Zef, hein ? La fréquence, Didier, et la fréquence de Studio Zef ?
Alors, de mémoire, il me semble que c'est 91.10.
Ça doit être ça, super. Studio Zef sur 91.10. Salut à tous les auditeurs de Studio Zef pour cette 17e émission de l'ivresse des échanges, dont le sujet est la dépendance à l'alcool et au groupe de parole. Hein. Pas la dépendance, si on peut dire la dépendance au groupe de parole aussi.
Eh oui, parce que même quand on est soigné après, on y va quand même, parce que c'est toujours...
Oui, on devient dépendant au groupe de parole aussi, mais c'est surtout la dépendance à l'alcool et des groupes de parole qui en découlent. Donc merci aux auditeurs de nous rejoindre aujourd'hui, et merci à Studio Zef toujours de nous accueillir. À ma gauche, Lucie à la technique. C'est elle qui est au petit bouton, au petit voyant, et on laisse Lucifer en cas de problème, comme on dit toujours. Aujourd'hui, on va dédicacer cette émission à... Je vous propose qu'on dédicace cette émission à Peggy. Peggy qui est abstinente depuis bientôt un an, c'est formidable. Elle est sur Saint-Aignan, elle anime un groupe de parole sur Saint-Aignan. Et elle a bien du mal parce que c'est pas facile. Elle l'a mis en place avec les docteurs là-bas, et c'est pas toujours facile. On en sait quelque chose, on en reparlera tout à l'heure. Et puis on va dédicacer l'émission aussi à
notre ami Julien qui se soigne actuellement et qu'on embrasse bien fort de Blois.
Merci. Ouais, il est en cure. Il a animé la dernière émission qui était sur la
polyaddiction.
Ouais, vous étiez là. Moi, j'y en étais pas. Vous étiez là. Et donc on lui envoie la dédicace aujourd'hui.
Eh bien, bonjour à tous. Tous ceux qui soignent et tous ceux qui espèrent.
Alors aujourd'hui, on enregistre l'émission de rentrée de septembre 2022. On espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez la pêche, que vous êtes plein de bonnes intentions. Cette émission, normalement, à partir de la rentrée, sera rediffusée aussi, comme d'habitude, le lundi à 11h.
Exact.
Et il y aura une rediffusion le dimanche à 23h. Donc ça, n'hésitez pas à faire passer l'information autour de vous.
Merci.
Alors, pourquoi on est là ? Pourquoi cette émission ? Et d'abord, à qui ça s'adresse ? À qui ça s'adresse cette émission ? Ça s'adresse en fait à tous ceux qui rencontrent des problèmes avec l'alcool et qui rencontrent des problèmes après dans leur famille, dans leur travail, qui perdent leur permis, qui perdent leur travail, qui perdent leur conjoint, qui perdent la garde des enfants, etc.
Ou même juste qu'ils se sentent mal face à leur consommation, en fait, même. Ouais. Simplement, et puis on l'a vu, on commence même un petit peu gentiment la polyaddiction, même sans que l'alcool. Et ça s'adresse justement à tous ceux qui ont besoin d'espoir, qui ont envie d'entendre des cas un petit peu ou permettre de se reconnaître, quoi, en fait.
Ouais, c'est comme on dit vulgairement, ceux qui sont au fond du trou et qui ne perdent pas qui gardent toujours une lueur d'espoir parce qu'on est passé par là. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, moi. C'est pour faire passer ce flambeau. Et on se rend pas compte que c'est possible tant qu'on n'a pas fait le premier pas. Voilà, ne pas désespérer. De vous accrocher,
de dire qu'il y a des solutions.
Ouais, absolument. On va en reparler de tout ça. On est là pour ça. On est là pour tous ceux qui ne peuvent plus s'arrêter, qui tout d'un coup se disent « Oh là là, je ne peux plus m'arrêter de consommer de l'alcool ». Et on est là pour cela. On est là pour tous ceux qui ont un proche, qui ont un problème avec l'alcool et qui n'osent pas lui en parler, qui n'arrivent pas à lui en parler et puis qui n'en sortent pas. On est là aussi pour tous ceux qui se posent une question sur leur propre consommation. En particulier, on a souvent parlé de janvier sobre, on va en reparler, mais à un moment, on peut se dire, tiens, c'est vrai, le copain, là, il m'a dit qu'il avait arrêté de boire depuis plusieurs années ou plusieurs mois, moi, j'en suis où ? C'est vrai que j'ai bien du mal à m'arrêter. Donc, on est là pour ces gens-là. Hein. Et notre but, Nina, tu le disais, hein, le but de l'émission, c'est l'espoir. En fait, c'est redonner de l'espoir, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa consommation d'alcool, qui pense que c'est fini, qui ne pourra plus s'arrêter, qui ne conçoit pas de vivre sans l'alcool, Et ben nous, on est là pour lui expliquer notre parcours et témoigner. On n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là pour donner des leçons, on va en reparler tout à l'heure. Mais on est là pour dire, il y a moyen de s'en sortir.
Il y a des solutions toujours.
Il y a des solutions, nous on y est arrivé.
Il y a des outils, il y a plein de choses. Il ne faut pas que les gens se sentent seuls. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent des questions. Moi j'ai rencontré une personne qui savait que j'avais des soucis de l'alcool, qui m'a demandé les démarches à suivre. Il y a un hôpital, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Qui ne savent pas où ils en sont eux-mêmes et qui ne savent pas le parcours. À prendre, le chemin à prendre.
Ouais, absolument. Donc, le leitmotiv de l'émission, c'est l'espoir. Nous, on est là pour l'espoir. C'est bien, hein, moi, je trouve, comme objectif.
Bah, l'espoir fait vivre, hein, déjà.
L'espérance aussi, tu vois.
L'espérance, absolument.
Le docteur, il prescrit de l'espéral et moi, je prescris de l'espérance.
Ouais, on va en parler des médicaments. Alors, pour m'aider aujourd'hui, je suis entouré, bien entouré. Alors, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par, c'est normal, la plus jeune. La plus jeune, ouais. D'ailleurs. Ouais.
Donc, du coup, moi, c'est Nina. Vous m'avez déjà vu, entendu, surtout dans certaines émissions. Je suis ravie d'être là encore et ça fait bientôt un an que je suis sobre, donc je suis très contente. Voilà.
Alors moi c'est Didier, je suis abstinent depuis 4 ans et demi maintenant et j'ai participé pratiquement toutes les émissions, je crois, il me semble, depuis le début de l'expérience et c'est très très bien. Et c'est reparti, on a la chance cette année quand même, faut le préciser, d'être sur le programme officiellement de Studio Zef, sur le programme 2022-2023. Voilà.
Bonjour à tous, moi c'est Fabien, j'ai été alcoolodépendant pendant plus de 15 ans et aujourd'hui ça fait 3 ans que je n'ai pas touché l'alcool. Et je fais une dédicace à l'infirmière Marilyn Rousselet qui va être à la retraite dans un mois. Ouais. Donc, et puis à tout le service addicto du CHU de Blois qui m'ont soutenu malgré que je sois dans une situation compliquée. Et je suis là et bon courage à vous.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Christian.
Un petit nouveau.
Je suis le petit nouveau. Je suis un petit jeune qui débute, ouais. Quoi, là, dans l'émission.
Le bleu, ce soir.
Et puis, moi, j'encourage tout le monde, justement, j'ai une longue histoire, une longue, je dirais, carrière dans l'alcool, puisque j'ai eu fait plusieurs rechutes. J'y ai fait 8 cures. Donc, j'ai une solide expérience là-dedans, mais. À chaque fois, je retombe. Je ne suis pas actuellement abstinent. Ouais. Et depuis un mois, je suis le groupe de parole de Blois qui est à l'écoute. Vous, des gens qui sont là sans jugement et qui sont là pour donner de l'espoir. Je pense, voilà, c'est ça. Mon maître mot, c'est y croire encore. Sinon, j'ai plus grand-chose pour continuer justement à y croire. Voilà.
Ouais, ça c'est super, Christian, merci. Et c'est ça qui est important aussi dans notre pratique du groupe de parole et de la radio, c'est que oui, il y a des gens qui sont pas encore abstinents. Mmh. Et c'est pas pour ça qu'on leur ferme la porte et puis qu'on dit on prend que les gens qui sont abstinents. Alors, Lucie à ma gauche, hein, tu devrais te présenter.
Lucie à la technique depuis le début de l'émission.
Qui fait partie intégrante de l'émission. De temps en temps, on la surprend en lui donnant la parole. Et moi, pour un coup, je ne me suis pas présenté. Donc Olivier, j'anime l'émission depuis un petit moment déjà. Avec grand plaisir d'ailleurs. Hein. Et j'ai 4 ans, un peu plus de 4 ans d'abstinence. Je ne compte plus maintenant. J'ai un peu plus de 4 ans d'abstinence. Bon, je suis un vieux de 64 ans maintenant. Donc moi, c'est différent. Hein. Je peux donner des conseils aux plus jeunes. Mais c'est facile. À 64 ans, c'est plus facile. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les plus jeunes comme Nina à ma droite.
Bien sûr.
Qui ont 22 ans. Et là, c'est dur parce qu'il aurait fallu que je fasse ça à 22 ans. J'aurais souffert. J'aurais eu du mal. Donc bravo pour votre courage. Ouais.
Je souffre plus, moi, maintenant, ça va.
Ouais, c'est...
Mais beaucoup sont dans son cas et qui, justement, ils font aucune démarche ou qui ne se sentent pas concernés par le problème de l'alcool. Beaucoup.
Bah, faut dire, c'est compliqué, en fait, quand t'es jeune, de se sentir concerné par ça.
Bien sûr.
Et de se rendre compte de sa maladie. Mmh. Quand tu es entouré et que tu as l'entourage qu'il faut, effectivement, ça peut se faire. Mmh. Et moi, j'ai eu cette chance-là, d'ailleurs, hein, parce que, voilà, Fabien m'a proposé les groupes de parole, etc. J'ai su m'entourer. Mais c'est clair qu'avant, à 23 ans, il n'y a pas tout le monde qui arrête de boire, non plus. Et pourtant, moi, pour ma santé, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix du tout. Et je suis très heureuse d'avoir fait ça.
En cure, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, hein, les 25, entre 20 et 30 ans, voire même plus jeunes. Et je me dis, moi j'en ai 60, j'arrive en fin de vie, juste ce problème-là. Et s'il commence déjà, et c'est ce que disait Olivier, à 20 ans déjà avoir ce souci, quand on voit, moi je vois la difficulté de se séparer du produit, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Moi j'ai des enfants et j'ai peur aussi pour eux, quoi. On sait jamais. Faut pas dire qu'on ne le sera jamais. Et puis, comme on dit, Fontaine
jouera. Faut jamais
dire jamais. Fontaine jouera pas de ton nom, surtout. Voilà. À toi, Olivier.
Moi, c'est vraiment le côté sympa de cette émission. Hein. C'est donc les nouveaux régulièrement. Merci, Christian, pour ça. Des nouveaux qui arrivent et des témoignages nouveaux. Les vieux piliers, comme disait Didier, ouais. Hein, qui était là depuis le départ. Hein. Fabien, qu'on est un aussi. Nina, qui est jeune, qui a animé des émissions, etc. On a fait gaffe dans le cadre de la semaine Elle au féminin, Elle à Blois, à ce que ça soit que des femmes qui puissent parler, qu'il n'y ait pas de mecs pour leur casser les pieds et leur couper la parole, etc. C'est ce qui est sympa de cette émission. Alors, merci de vous être présenté. On a parlé des objectifs de l'émission. On a dit à qui ça s'adresse. Maintenant, les principes, Didier, de l'émission, c'est généralement, c'est de quoi, ça?
Oui. Le principe, sur 91.10, hein, je rappelle.
Bien.
Le principe de l'émission, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites tout à l'heure. Hein, c'est bien sûr l'espoir. Hein, et ça s'adresse surtout à ceux qui se posent des questions sur leur consommation ou à celles et ceux qui peuvent avoir dans leur entourage un proche qui consomme beaucoup d'alcool et qui se sent en difficulté, quoi. Voilà. Alors, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On ne juge pas. Il faut savoir quand même que l'alcool, bon, faut préciser, c'est une maladie qui fait quand même plus de 40 000 morts chaque année.
Très bien. Hein.
Donc, c'est une réelle maladie et qu'on peut, mais contre laquelle on peut lutter. Et le but essentiel de notre émission aussi, c'est par les témoignages de ceux qui sont sur le plateau, de pouvoir apporter la preuve que l'on peut s'en tirer, qu'on peut, avec de l'aide, avec des soins, on peut arriver à sortir de l'alcool, on peut arriver à se rétablir et à retrouver une vie normale. C'est ça l'essentiel de l'émission. Voilà.
C'est ça. Pas de jugement, pas de leçons. Donc on est sur nos témoignages personnels pour témoigner de nos parcours. Didier, tu as bien fait de rappeler 40 000 morts, et peut-être, enfin, c'est des chiffres qui ne sont pas forcément actualisés, hein. Peut-être plus encore, 40 000 morts par an. L'alcool, c'est un marché, c'est du pognon, il y a beaucoup de gens qui profitent de ça, et nous, on est du côté des 40 000 morts.
Voilà, oui.
Et puis de ceux qui se battent,
bien sûr. On ne va pas faire ici la guerre contre les lobbies alcooliers, on ne fait pas le poids, mais bien qu'il y aurait beaucoup à dire. Nous, on est du côté de ceux qui souffrent de la maladie, qui se laissent piéger dans la maladie et qui veulent s'en sortir.
Les lobbies alcooliers dont tu parlais et notre cher président, il y a des bonnes choses à dire, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Notre cher président qui est bien du côté aussi des lobbies alcooliers plutôt que des autres. Alors, les adresses et les numéros utiles, on va les donner plutôt en fin d'émission, on avait dit, hein, parce que sinon... c'est pas forcément efficace. Donc préparez un crayon ou un papier pour ceux qui voudraient prendre des informations.
Et puis normalement, de toute façon, elles sont notées aussi dans la description, ouais. Et elles sont retrouvables très facilement sur notre site internet.
Voilà, on va en parler.
Un radeau entre deux eaux.
Très bien, c'est ça. Alors, avant d'attaquer le sujet de l'émission d'aujourd'hui, on fait toujours un rappel parce que finalement, travailler sur l'alcool, c'est beaucoup répéter, toujours la même chose, hein, il ne faut pas se lancer, il faut répéter les mêmes choses. Le parcours de soins, en fait, on disait tout à l'heure, l'alcoolisme, c'est pas de la faiblesse, hein, c'est pas quelqu'un qui manque de volonté, qui est trop faible, c'est une maladie. C'est clair. Et là, on est là pour marteler, pour répéter ça tout le temps. Il faut avoir la révélation qu'on est malade à un moment ou à un autre. Il faut avoir le déclic qui fait que on va aller consulter. On va aller consulter un addictologue, docteur addictologue qui est formé pour ça. Et quand on va voir un docteur, qu'on ait du diabète, qu'on ait la grippe, qu'on ait une angine, il va généralement prescrire des médicaments. Qu'on va prendre ou qu'on va pas prendre, on n'est pas obligé, hein, mais c'est un confort. Mmh. Les médicaments, c'est un confort, ça peut aider. Il y a des gens qui arrivent à se soigner sans médicaments, mais c'est pas facile.
Mais rappelons quand même qu'il y a un risque à se sevrer de l'alcool.
Absolument.
Sans médicaments, parce que ça peut, bah, on peut en mourir.
Absolument.
Donc c'est quand même dangereux, il faut faire attention. C'est pour ça que, comme effectivement c'est une maladie, comme toutes les maladies, et ben on essaye d'être suivi un minimum quand même, parce que mine de rien, ça peut être assez dangereux.
Et que, il faut mieux consulter et avoir l'avis d'un professionnel. Absolument, tu as tout à fait raison. Ensuite, le docteur va orienter le patient vers une cure, éventuellement. Et là, chacun d'entre nous peut témoigner là-dessus, sur ceux qui ont fait des cures, ou proposer aux patients de se soigner ce qu'on appelle en ambulatoire, donc chez lui. Hein.
Oui, cure ambulatoire, hein, c'est ce que j'ai fait, moi, avec l'aide de médicaments. Alors, ambulatoire, ça veut dire qu'on n'est pas, on va pas dans un établissement spécialisé, on reste dans son environnement habituel, on continue à son travail si on est en activité, et puis en même temps, on prend des médicaments et on est suivi régulièrement par le médecin addictologue et on participe à des groupes pour discuter, pour échanger avec d'autres malades pour s'encourager sur les différentes expériences, à partir des différentes expériences.
C'est ça. Et le point positif, en plus de la cure en ambulatoire, il y a du positif dans les deux, mais le positif de la cure en ambulatoire, c'est qu'en fait, on ne se coupe pas de son milieu. Mmh. Alors parfois, c'est un frein, au contraire. Parfois, il y a besoin de se couper du milieu. Et parfois, c'est plus facile de justement rester dans son environnement pour apprendre à vivre sans l'alcool, bah, dans son environnement classique, en fait, et sans avoir cette coupure, même si parfois, cette coupure est nécessaire.
Absolument. Alors, donc les groupes de parole, très important, on va en reparler, hein, on est là pour en parler, cette émission-là est faite pour ça, l'importance des groupes de parole. On parlait d'addiction aux groupes de parole tout à l'heure, on va y revenir. Alors, en première partie de l'émission, j'aurais voulu faire quelques rappels d'abord. Rappeler qu'on fait partie d'un collectif, c'est pas une association, c'est un collectif, le collectif qui s'appelle Entre deux eaux, Nina en parlait tout à l'heure. Donc c'est un Entre deux eaux, pourquoi? Parce que c'est entre la Loire et entre le Cher, finalement, hein. Ça a été mis en place à l'initiative d'un alcoologue qui s'appelle Gilles Demigneux, hein, qui a travaillé plus de 40 ans sur sa carrière médicale, a été consacrée à la lutte contre l'alcool, au service de la lutte contre l'alcool. C'est un docteur qui a privilégié la place du patient dans le parcours de soins, et ça on pourra en reparler aussi, qui a développé des groupes de parole donc entre la vallée du Cher et la Loire, entre Blois, Montrichard, Saint-Aignan, Selles, Amboise, etc. Et aussi développer des contacts avec des copains à Tours et à Orléans aussi, hein. Et il est à l'origine de différentes initiatives, dont des visioconférences ou visioréunions pendant le Covid qui nous a et qui continue à nous marquer tous, qui est à l'origine de cette émission de radio. C'est lui qui a eu l'idée, hein, de cette émission de radio qu'on essaye de tenir, le blog aussi, l'initiative du blog avec les copains dont parlait Nina tout à l'heure, et on va revenir là-dessus. Donc c'est l'occasion en premier lieu, de saluer les copains de la vallée du Cher. Hein.
Et saluer surtout, tu parlais du blog, de saluer Gilles,
voilà,
de Tours, hein, qui s'occupe du blog, hein, qui est très actif dans l'Indre-et-Loire d'ailleurs, et qui s'occupe du blog, de la page Entre deux eaux et tout ça, qui...
Saluer Karine à Amboise, Philippe à Montrichard, Thierry à Orléans aussi, le pauvre qui est en cure aussi en ce moment, mais qui milite au niveau des alcooliques anonymes. Saluer le docteur Demigneux, donc qui est en retraite maintenant, salut. Et puis le docteur Romain Coste qui a pris sa place, qui lui succède, hein, et qui lui est totalement partie prenante de la notion de patient expert, c'est-à-dire que le patient est vraiment au centre du parcours de soins.
C'est pas le sujet de sa thèse en doctorat.
C'est ça, hein, il me semble, hein, absolument.
Il
absolument.
Est pas mal ce monsieur.
On va le garder, comme dit l'autre.
Alors, les patients experts, après, c'est chacun. Chacun est acteur de son soin. On va pas dans un centre de désintoxication se faire désintoxiquer. On y va d'abord quand c'est soi-même, ça commence par soi, hein. Bien sûr. Et ça vaut le coup. Une vie après l'alcool, elle vaut le coup d'être vécue.
C'est sûr.
Et donc on a parlé des groupes de parole de la vallée du Cher, Montrichard, Selle, etc., Saint-Aignan. Et puis le groupe de parole de Blois, on va essayer d'en parler aussi. Actuellement, on est une quinzaine, après avoir tiré le diable par la queue pendant le Covid, là, où on était 3 ou 4, c'était difficile, il a fallu faire des visios, réunions, etc. Là, on est une quinzaine de participants à des stades différents. Des personnes qui sont au stade de la révélation, hein.
C'est ce qui est complémentaire, hein. C'est ce qui, en ce qui me concerne, ayant récemment incorporé l'équipe, le groupe, voilà, il y a une multitude entre les jeunes femmes, les plus âgées, ou des gens comme moi qui sont longtemps dans le problème de l'alcool, mais qui ont replongé, qui ont du mal à se sortir. Enfin bref, c'est une multitude de gens complètement différemment, et je pense que chaque auditeur pourra se retrouver. Nous, on est tellement différents, avec des parcours de soins, Didier le disait tout à l'heure, ambulatoires. Moi, j'en ai rarement fait, j'ai pu c'était en cure plusieurs fois, donc c'est autre chose, hein. J'avais besoin de couper, j'avais besoin de en cure. L'avantage, c'est on se resocialise avec des personnes qui ont le même problème que nous. Donc quand on discute, parce que d'en parler chez soi, avec des gens, mis à part avec le médecin, où c'est pas évident d'arriver à...
D'où l'importance des groupes de parole pendant cure ambulatoire, parce que voilà, sans les groupes de parole,
C'est vrai que c'est pas évident. Comme disait Nina, il y a des gens qui ont besoin absolument de cette cure et de s'isoler. Par contre, on a dans les groupes, on a vu beaucoup de témoignages là-dessus. Sans les groupes de parole, la sortie de cure, elle est terrible.
Eh bien, il faut un suivi obligatoire.
Voilà, c'est ce qu'on entend souvent, quoi.
Les rechutes, elles sont souvent liées au manque de suivi. Ou en pensant qu'on peut gérer, en pensant qu'on peut, s'en sortir tout seul comme un grand, et c'est pas possible.
Tu sais, cette pensée-là qui consiste à penser je garde tout pour moi, je dis rien à personne, j'encaisse comme un homme ou comme quelqu'un de courageux, un brave. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais d'être alcoolique, c'est une honte pour beaucoup de gens. Hein, donc,
alors que si on veut se soigner, il faut commencer par vider son sac.
Bien sûr.
On n'y arriverait jamais si on garde tout ça pour soi tout seul. C'est l'autre qui nous permet d'y voir plus clair.
Et puis de toute façon, même quand on est accompagné par un médecin, on se soigne nous-mêmes, c'est quand même notre acte à nous. Et en fait, accompagné par un médecin, oui, mais en fait, tu te soignes quand même toi-même. Et dans tous les cas, c'est... Alors oui, parfois, ça peut être un petit peu compliqué de se montrer, de se rendre compte déjà à soi-même, face à soi-même, de se dire effectivement, je suis malade, j'ai un problème. Ça peut être difficile, mais en fait... C'est tellement utile et important qu'être accompagné, il ne faut pas en avoir honte. Oui, et dans les groupes de parole, ce qu'il y a, c'est que c'est que des personnes qui ont un vécu un peu similaire, qui ont ce problème-là aussi. Et donc, il n'y a pas cette honte, ou en tout cas, elle se perd petit à petit.
C'est le suivi obligatoire pour moi, le groupe de parole. Quand on a été en cure, justement, on retrouve tous ces gens-là. Et dans un groupe de parole, moi je revis, je reconnais que j'ai d'autres, je vois un peu les choses, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, peut-être grâce au groupe de parole. Rien que le fait pour moi, où je sais pas trop comment dire, c'est ma première dans cette émission, je me sens bien, quoi. En temps normal, c'est un moment que je passe seul, tout seul, je téléphone même pas, rien. Et là, je me sens bien, c'est bien. Je suis content. Merci à toute l'équipe déjà de m'avoir accueilli et puis de m'aider à me sentir bien. Merci surtout à Olivier.
Merci.
Et Didier et puis tout le monde, Fabrice aussi.
Et ouais, merci de partager. Il y a plein d'auditeurs qui sont derrière plein d'auditeurs sont derrière les écouteurs et on sait qu'ils sont là. On pense bien à vous. Et... Venez.
Oui, c'est vraiment important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une quinzaine de participants, donc il y a les gens qui sont au stade de la révélation, il y a des gens qui sont au stade du sevrage, dont parlait Nina, qui est une phase dangereuse, faut être accompagné, le sevrage qui se fait tout seul, c'est vraiment un risque important, les gens qui sont en début d'abstinence, de l'ordre de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Les vieux de l'abstinence longue, là, les vieux routiers de l'abstinence longue, mais qui la ramènent pas trop parce qu'on ne sait pas s'il ne faut pas faire non plus peur aux gens avec l'abstinence. Le principal, c'est qu'ils s'arrêtent. Il y a les gens qui sont en cure, les gens qui sortent de cure, etc. Donc, c'est en fait, le résumé, c'est on a tous le même problème, mais on a tous des histoires différentes. Mmh, donc, c'est ça qui est important. On témoigne et à un moment, on a en face de soi, on a quelqu'un qui a vécu à peu près la même chose que soi et on peut s'épauler. Et puis, on est là aussi aujourd'hui et dans les groupes de parole pour démystifier le groupe de parole où oui bonjour, je m'appelle Gérard, ça fait 10 ans que je bois plus, puis j'ai rechuté, etc. Tel que certains humoristes ont pu le présenter, c'est pas ça un groupe de parole. La Blois, c'est 2h30 la plupart du temps de débat sur n'importe quel sujet politique, la sexualité, le suicide, le truc, etc. On parle de plein de choses.
C'est vraiment du partage, en fait, c'est du partage. Et surtout, en fait, c'est assez libre au final et on se sent assez à l'aise pour s'exprimer, parler de soi et aussi, en fait, écouter les autres. Et ça nous fait énormément grandir, je trouve.
Absolument. Et donc, dans le groupe de parole, il y a la présence régulière de la dictologue qui est là et donc qui est la référence au niveau médical, qui va pondérer ce qui se dit, qui va donner des conseils, etc.
Qui est plus technique que ce qu'on peut l'être nous. Nous, c'est sur l'expérience de vie. Donc, on arrive à, grâce à des gens comme vous, à mener le débat. Et puis bon, après les expériences de vie, voir les solutions, voir tout ce qu'on peut apporter. Et la dictologue, ouais, je pense que c'est plus le technicien, en fin de compte.
Bien sûr,
bien sûr. Qui...
Moi, je crois énormément au groupe de parole, je le dis à chaque fois, parce que c'est là, moi, que j'ai appris qu'on pouvait s'en sortir. Hein, parce que je suis passé par le même parcours que n'importe quel malade. On a tous le moment où on se dit, bon, il y a toujours le « je peux arrêter quand je veux ». Ça, c'est le coup classique. Mais quand on s'aperçoit que c'est pas vrai, qu'on peut pas s'arrêter quand on veut et qu'on veut faire quelque chose, là, on est face à un mur. Et là, moi, dans le groupe de parole, par exemple, que j'ai intégré avant d'arrêter complètement, c'est des gens abstinents depuis des années qui m'ont appris par le dialogue, par l'échange, que c'était possible d'arrêter. Et je pense, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, que bien sûr, on n'a pas tous le même parcours, mais pour les soins, on fait pas peur aux gens, on veut pas faire peur aux gens, parce que chacun va à son rythme dans les soins. Chacun doit aller à son rythme dans ses soins. On est tous différents, avec des vécus différents, donc chacun doit prendre les choses bien dans l'ordre et sans bousculer, sans trop bousculer. C'est déjà très difficile de sortir de cette maladie psychologiquement, souvent, qu'il faut prendre le temps de le faire et avec de l'aide. Et les groupes de parole sont là.
La chance qu'on a aussi, c'est que le docteur Romain Coste, en fait, prend totalement ça en compte et il va vraiment aller au rythme du patient. C'est-à-dire que si tu veux pas de médicaments, d'accord, t'as le droit de pas en vouloir. Et on fait des rendez-vous réguliers pour voir comment ça se passe. Et puis si tu veux un traitement, ok, on voit qu'est-ce qui est le plus adapté. Mais c'est vraiment au rythme du patient, en fait, et il respecte vraiment ça, il est vraiment à l'écoute de toutes ces choses-là, et c'est vraiment agréable, en fait, de se sentir accompagné par un médecin qui te fait confiance, en fait.
Ouais, le parcours de soins, l'important c'est la durée, effectivement, c'est un chemin de croix, quand on l'attaque, c'est un chemin qui est long, et c'est ce qu'on dit aux gens, avec des chutes, on tombe, on se fait mal aux genoux, on se fait mal partout, mais on se relève, et ça peut durer très longtemps, et même au bout de 20 ans, même plus, on n'est jamais sûr.
Tu prêches à convaincu, Olivier, là.
On n'est jamais sûr. Fabien dit toujours qu'au début, on avait une collègue qui avait 26 ans d'abstinence, et... elle avait peur du jour au lendemain de la rechute, et une autre qui avait rechuté au bout de 20 ans, etc. Ça peut, du jour au lendemain, le château peut s'écrouler. Hein.
Oui, parce qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si comme on était dépendant, on ne redevient pas vierge au niveau de l'alcoolisme. Il suffit que
Ouais,
là, ça fait 3 ans que je n'ai pas bu, mais je sais que si je bois un seul verre d'alcool, je me retrouvais au rayon alcool avec des canettes sur le tapis.
C'est sûr.
Et après, je sais que ça va être... On se ment à soi-même. Allez, je bois que le week-end. Après, je bois plus que le soir. Mmh. Puis en fait, sans le voir venir, on est retourné dedans.
Non, mais je suis passée par là aussi, c'est fou. Hein. Parce qu'en plus, vraiment, on se dit non, mais c'est tranquille. De toute façon, c'est que le week-end, quoi, ça va. Bon, bah oui, c'est vrai qu'on est mardi, mais c'est que le soir, ça va. Ah, ça va. C'est bon, c'est vrai qu'il est 6h du mat. Bon, voilà, c'est compliqué.
J'ai géré la patatrace.
On gère jamais. Hein.
Je suis passée par là.
Ouais. Et malheureusement, on passe tous par là. Et en fait, moi, au final, j'ai fini par me rendre compte de ce chemin-là. À force de le faire, en fait. Et à force de le faire, on se rend compte soi-même. Et c'est pour ça aussi qu'il faut apprendre à se connaître pour apprendre à pouvoir éviter ce schéma, ne pas reproduire tout ça à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, en fait. Quand on arrête de boire, on apprend à se connaître et à s'écouter énormément.
C'est pour ça, Olivier disait que c'était long, justement, par rapport à ça. Admettre le fait d'être alcoolique. Admettre ça, déjà, c'est déjà un pas. Et se dire que avec ça, après ça, après l'alcool, on peut avoir une autre vie. Et puis ça revient au thème de l'émission, l'espoir, espérer, voilà, c'est tout.
Et puis vivre au final.
L'espoir fait vivre.
Bien sûr. Alors, te rappelle donc, c'est 17 émissions hein, aujourd'hui là. Dont la première a eu lieu le 7 février 2019. On est en 2022, hein, ça fait déjà un petit moment. Je propose, avant la pause musicale, qu'on revoie un petit peu les thèmes qui ont été abordés dans toutes nos émissions, dans les 16 émissions précédentes, là, et vous interagissez avec moi sur le sujet. La première, c'était, ça parlait de la dépendance à l'alcool et forcément des groupes de parole, hein. Cette fameuse démystification. Dans la deuxième, on avait parlé de cette prise de décision, l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment, on va voir le tout. Mais c'est important. Hein, ça,
c'est essentiel. Hein. Ouais. La prise de conscience, à un moment donné, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut se soigner.
Ouais, le déclic.
Et je pense qu'on y reviendra assez souvent, parce que c'est même y compris dans le sens de notre émission.
Quand tous les voyants sont au rouge, qu'à 5h du matin on se réveille et qu'on se dit aujourd'hui j'arrête, et puis qu'à 10h on est déjà en train de consommer, les voyants sont au rouge, tous les signaux d'alarme sont en route, et c'est là à un moment il faut avoir le déclic, il faut, ouais.
Et parfois en fait ce moment où on est là à se dire non mais j'y arriverai, et ben des fois il dure longtemps, mais à un moment donné il y a un élément banal. Moi c'était la naissance de ma nièce par exemple, ouais. Où là je me suis dit ah ouais non mais là c'est plus possible, par contre qu'est-ce que je vais représenter pour elle, et là ça a été un déclic ultime pour moi. Je me suis dit ok, faut vraiment que j'arrête, vraiment.
Les enfants, la perte de la garde des enfants, l'état de santé, la maladie, hein, les gens qui se retrouvent allongés dans la rue, qui ne savent pas pourquoi, qui ne se souviennent plus pourquoi ils sont tombés, ils ont eu un malaise.
Ça va pas arrêter, ça.
Ouais, le déclic, il peut être là, il peut être la perte du permis, la perte du boulot, plein de choses. Hein, et il y a un moment, toc, qui... la troisième émission, on avait parlé justement, pourquoi on bascule un moment dans la surconsommation, dans la consommation abusive, alors qu'on avait une consommation soi-disant raisonnée avant. Fragilité, hypersensibilité, prédisposition génétique, épigénétique, agression, etc. On avait parlé aussi d'un film qui s'appelait Nos vies formidables. Donc si un jour vous voyez ça dans une médiathèque, un truc comme ça, n'hésitez pas, ça parle de ça. Émission numéro 4, on avait parlé du sevrage, de la douleur du sevrage, hein. Tout à l'heure, on parlait de ça.
Ah bah ouais.
Les premières heures, les premiers jours, les périodes successives, les cures, les médicaments, les stratégies pour ne pas boire, le retour de cure, les sollicitations, etc. On avait parlé dans la numéro 5, après les cures et les soins, l'arrêt des soins, comment on fait pour sortir de cure, le traitement en ambulatoire. La sortie du cocon de la cure, la confrontation avec la famille, avec les voisins, avec le travail, avec ceux à qui profite le crime des fois, hein. C'est-à-dire que le fait de boire, ça arrange des fois l'entourage aussi. Vivre et s'amuser sans l'alcool aussi.
Ouais. Ouais, ouais. Et mine de rien, c'est important, et puis c'est pas si difficile, en fait. Hein. Au contraire, même.
Ouais, ça, c'est, on est là pour témoigner.
Ça, c'est le retour à la vie normale, hein, je veux dire.
Bah, la vie consciente et la vie où on se souvient de ce qu'on fait, déjà.
Voilà, c'est plus important.
Et qu'on n'a pas honte de soi, quoi.
Voilà, le lendemain matin.
Ouais, exactement.
On culpabilise le lendemain matin, généralement. Donc, puis il y a les tremblants qui nous rappellent que on a été loin, un peu trop loin, même.
Numéro 7, hein, on avait parlé de la fête et de l'alcool, justement. À l'époque, on avait posé la question avec le petit-fils du docteur Demigneux, qu'est-ce qu'il boit le Père Noël? Être totalement abstinent, qu'est-ce que ça déclenche, etc. C'est ces sujets. Je vous remercie, je propose qu'on fasse une pause musicale. Lucie, on te fait confiance, tu nous... La pause musicale, Lucie.
Ouais, alors c'était... du coup, c'était Walking on Sunshine de Katrina and the Wave. J'aime beaucoup cette musique, elle me fout la paix. J'espère qu'à vous aussi.
Merci pour l'accent. Ah,
après
anglais,
les vacances, on en a besoin.
Donc, on reprend la deuxième partie de l'émission. Alors, on avait On était en train de refaire à peu près l'inventaire des sujets qu'on avait abordés dans les émissions précédentes. Dans la 8e émission, on avait parlé du fameux janvier sobre. Vous savez que tous les ans...
Dry January.
Ouais, bien vu, Dry January. Effectivement, c'est lancé à l'époque par les Belges et les Anglais plutôt. C'est une campagne qui n'est pas...
C'est pas les Américains.
Au départ, les Belges.
Sûrement que c'était les Américains, mais ouais. À vérifier.
C'est pas relayé par notre cher président, comme je disais, par contre, qui soigne ses
il
amis
peut pas
à collier.
Des contrats.
Janvier sobre, ça veut dire donc c'est des gens qui essayent de tester leur consommation d'alcool et qui décident d'arrêter de boire juste après les fêtes.
C'est le même principe que le mois sans tabac, en fait, ça permet aussi de s'aider parce qu'on est plusieurs à essayer d'arrêter en même temps. Oh. Et puis même quand on n'a pas un problème d'alcool, en fait, il y a tout un tas de bienfaits d'arrêter temporairement l'alcool. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est assez intéressant comme sujet, quoi.
Lucie, tu veux parler sur le janvier sobre? Tu y avais essayé, toi, non?
Oui. Est-ce que moi, je suis la seule participante à cette émission qui boit régulièrement de l'alcool? Et ouais, j'avais essayé, je me suis même deux années, parce que ça fait 3 ans qu'on fait des émissions ensemble, ouais. Donc j'avais essayé 2 ans, et c'est vrai que ça vaut le coup d'essayer, parce que c'est vraiment pas facile, on se rend compte à quel point se passer d'alcool complètement pendant un mois, c'est plus compliqué que ce que l'on pense, même quand on ne pense pas être addict.
Et oui, ouais, parce qu'en fait c'est présent au quotidien, et du coup même sans l'addiction, juste on propose, alors ok, vas-y, pas de problème quoi. Et même s'il n'y a pas le manque, en fait c'est tellement présent que ne pas en prendre du tout, c'est pas forcément évident.
Ouais, c'est ça. Moi, c'était quand on me proposait d'aller boire un verre en terrasse, j'étais un peu démunie.
Ouais, devant
qu'est-ce
le serveur ou la
serveuse. Qu'est-ce que je vais
boire? Par réflexe, une bière? Ah bah non, c'est vrai.
Ouais, oui, avant de parler d'abstinence, il faut parler d'addiction et à certains moments, peut-être, accepter du fait de dire... je suis peut-être un peu addict. C'est-à-dire qu'il me faut ma dose d'alcool une fois de temps en temps, au minimum, ou je rentre du boulot le soir, il me faut ma bière, etc. C'est là que nous, on ne juge pas, mais c'est là que le déclic il peut être. C'est-à-dire, où est-ce que j'en suis? Et là, ça devient plus grave. Donc, janvier sobre, c'est l'occasion tous les ans de refaire le point et de parler de ça. En 9e émission, on était passé au moment du confinement, du premier confinement, c'était en mai 2020, et on était passé aux visio-réunions, visio-émissions, et donc c'était l'occasion de parler de l'isolement des gens à l'époque, par rapport au Covid et par rapport au confinement. Et donc l'émission suivante, la numéro 10, c'était en septembre, forcément décalé. On avait parlé de l'historique des outils employés par les toubibs depuis 40 ou 50 ans, sur les moyens qu'ils avaient, les piqûres chauffantes au magnésium à l'époque, etc. Par rapport à tous les... Ça te dit quelque chose, ça, peut-être, Christian?
Non, pas spécialement, non.
Je pense que notre génération et celle de maintenant, les jeunes ont de la chance d'échapper à ça.
À l'époque, ils avaient ça, des piqûres au magnésium qui déclenchaient une réaction, ça leur faisait un coup de chaleur terrible, et ça leur permettait d'éviter ce qu'on appelle le fameux craving. Le craving, c'est l'envie irrépressible de boire, la pulsion de boire. Fabien, tu veux dire quelque chose?
La pulsion, quoi. Je vois très bien de quoi tu parles.
C'est ça le craving aussi, c'est une envie subite, et qu'on demande souvent de travailler dessus, que ce soit un médecin, un écologue, ou quand vous êtes en cure ou quoi, on travaille là-dessus, d'arriver à résister et de donner tous les moyens, tous les outils nécessaires à combattre tout ça, parce que ça vient. Alors il y a des fois, on se laisse aller, pour un peu qu'on a de l'alcool ou qu'on n'est pas loin d'en trouver. Mais ça, c'est important de travailler là-dessus. Craving, l'envie, une envie subite, et puis qu'on ne contrôle pas.
Mais d'ailleurs, elle passe normalement en fait en une dizaine de minutes.
Oui, justement.
Et c'est l'intérêt en fait aussi du groupe de parole, c'est aussi d'avoir des contacts pour nous entourer et qui peuvent nous aider. Je sais que nous, on fait ça, on s'échange nos numéros, et quand ça va pas, quand il y a un craving qui arrive, c'est aussi pouvoir appeler quelqu'un, parce que c'est vrai qu'en parler à son conjoint, sa conjointe ou quoi, c'est pas forcément évident. Donc appeler quelqu'un et dire là ça va pas, là je vais boire, je te jure, je vais pas pouvoir faire autrement. Et en fait, discuter. écouter juste même la personne, etc. Et au bout d'un moment, en fait, ça finit par passer. Le truc se calme, quoi. Mais c'est vrai que c'est très violent, en fait. C'est vraiment c'est violent parce que ton organisme réclame et t'as l'impression que tu vas pas pouvoir faire autrement.
Moi, je vois, j'ai le numéro de possible. Olivier. Bon, pour l'instant. Mais bon, j'ai pas eu l'envie de l'appeler pour une seule bonne raison. Je suis pas complètement abstinent. Quand on aura passé ce cap, que tout est, enfin, comment dire, qui est prévu pour moi, justement d'arrêter, de faire le sevrage, quitte à faire même une cure. Après, oui, voilà, c'est ça. Je serai dans l'abstinence. Et il sera bon d'appeler, que ce soit toi, moi, même toi, hein, Nina.
Bien sûr.
Didier, Fabien, voilà, mais pour l'instant, c'est pas...
Quel plaisir pour nous, ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, des collègues qui appellent hein, à n'importe quelle heure de la journée, des fois le soir, pour justement dire, oui, je suis devant un bar, je t'appelle parce que j'ai envie d'aller voir, il m'est arrivé tel truc, il y a quelque chose qui s'est mal passé, et j'ai envie d'aller boire une bière et tout le truc. Et t'es là, tu dis, tu raisonnes, tu parles avec la personne, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, tel truc. Mais tu vas quand même pas mettre plusieurs semaines d'abstinence en doute pour un verre de bière, ça va, tu sais, etc. Et puis au bout de quelques minutes, comme tu dis, Nina, hein, tu sens la personne qui dit, oh, putain, ça va mieux, j'ai bien fait de t'appeler. Heureusement, merci, merci, tu te sens utile, toi.
Bien sûr.
Moi, si ça sert à ça, c'est super. Il y a encore une collègue qui m'a appelé de Paris l'autre jour. C'est génial. C'était sous la douche. Elle m'appelle, je sors et je dis oh là là, elle m'appelle. Ça, c'est grave. Faut répondre. Et là, toc.
Puis c'est quelque chose du coup qui est hyper gratifiant pour vous aussi dans votre travail au quotidien de pouvoir aider des gens comme ça. Enfin, je sais pas, je me mets à votre place. Je trouve ça très beau comme geste.
Ouais. Ça bastille, ouais, c'est vrai.
Sauver une abstinence de quelques jours, de quelques semaines, parce qu'on est là. Et ça, à cause de ce fameux craving, c'est pareil, l'information, si vous avez l'occasion d'aller lire le livre qui s'appelle Le dernier verre du docteur. Olivier Amaizen, n'hésitez pas si vous trouvez ça dans une bibliothèque un jour ou dans une médiathèque, n'hésitez pas à le sortir, le dernier vers, et ça décrit ça, les états de craving.
Je me suis acheté un livre récemment, ça vient de sortir, ça s'appelle Sans alcool, c'est une femme qui arrête l'alcool, et elle se rend compte à quel point c'est subversif. De ne pas boire dans la
vraiment.
Société de consommation.
Moi, j'ai un ami qui ne boit pas d'alcool du tout, par choix, parce qu'il n'aime pas ça. Et à chaque fois qu'on va au bar ou quelques bars où il demande un verre sans alcool, systématiquement, on va lui dire « Ouais, c'est parce que tu vas conduire après » ou on va tendre le verre à la fille de la table, mais ce ne sera jamais pour lui. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf comment il est en permanence jugé pour ce choix qui est en fait plutôt sain pour la santé, finalement.
C'est clair.
Donc si je comprends bien, on est jugé quand on boit et on est jugé quand on boit pas.
Ouais. Malheureusement, en France, ça surprend beaucoup, en fait, ce truc de... Attends, tu prends pas une bière, toi? Non, mais pourquoi? Tu conduis? T'es enceinte? Non, je suis pas enceinte. Non, je bois pas, c'est tout. Ça te pose un problème. Je ne vois pas pourquoi. Et toi, pourquoi tu bois? C'est un petit peu bizarre, quoi. Ça serait bizarre de poser cette question-là. Pourquoi tu prends une bière? Tu vas pas prendre un coca? Et pourtant, ils font l'inverse... Et ça paraît normal, quoi, mais ça devrait pas.
Dans l'émission numéro 12, on a abordé l'alcool et le travail. Alors là, il y a des choses à dire, on en avait parlé, il y en a des choses à dire.
C'est avec cette émission-là, d'ailleurs, que je vous ai découvert.
Ouais.
Parce que moi, c'était très compliqué, le travail.
Ouais.
Non, c'était vraiment... vraiment difficile, on va dire, parce que le travail donne envie de consommer et puis, en fait, quand tu consommes, tu fais plus très bien ton travail, quoi, donc c'est un peu compliqué.
Et c'est souvent au travail qu'on apprend à boire, qu'on conforte son envie de boire. Et puis, après le travail, on a souvent besoin de boire pour oublier, pour se détendre, etc. Enfin, on avait abordé le sujet et on pourra revenir dessus parce qu'il y a des choses à dire encore.
Oui, surtout dans les conditions actuelles, quoi, je veux dire, avec tout ce qu'on vit en ce moment, les Covid, etc. Ouais. Je pense que...
Et il y a ça, d'ailleurs, je me suis posé la question par rapport au télétravail. Quand t'es justement malade, alcoolique, quoi, si t'es en télétravail, ça peut être vachement compliqué.
Bah,
parce qu'en fait, là, t'es chez toi, quoi, t'as tout à disposition.
T'es seul, t'as
voilà,
pas
c'est...
de...
C'est compliqué, je pense, le télétravail dans cette situation.
Je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir. Parce que je pense que dans la société aujourd'hui, on ne mesure pas encore ce qui se passe et ce qui s'est passé là, ces dernières années, quand c'est parti avec le Covid, quoi. Les dégâts que ça a pu faire. Hein. On sait simplement que les consultations en psychologie et tout ça ont énormément augmenté hein, en France. On ne sait pas encore chez les addictologues et tout ça, mais... je pense que ça a dû faire énormément de dégâts.
Ouais, le travail, et puis tous les groupes sociaux, tous les groupes professionnels sont touchés, hein, c'est ça qui est important aussi au niveau du travail. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens addicts à l'alcool chez les toubibs, chez les flics, chez les soignants, dans l'éducation nationale, partout, hein, ça touche tout le monde, hein, c'est pas que les ouvriers. Alors les ouvriers, oui, ils ont donné leur part.
Ouais, parce que c'est un mauvais siècle dernier. L'alcool est un mauvais médicament qui donne du courage.
Pendant quelques
minutes. C'est la pression, en tout cas, qu'on en a.
Mais bon, on a vite fait de perdre son travail. Merci. Et tout ce qui en suit, en découle après, là aussi.
En émission numéro 13, on avait abordé les médicaments, le baclofène. Le baclofène en particulier, et puis les spérales, etc. Tous ces médicaments, donc ça valait bien une émission aussi, puisqu'il y a plein de choses à dire. Ensuite, 14, on avait parlé aussi pour l'entourage des gens alcooliques, on avait parlé du site Al-Anon dont on va reparler. Et c'est pas facile, hein, ça, l'entourage, les conjoints, les familles et puis les personnes malades de l'alcool, c'est pas simple les rapports. C'est pas facile de mettre tout le monde sur la même table, même ici, de les réunir autour de la table pour une émission, c'est pas facile. La numéro 15, c'était l'alcool au féminin.
Animé par moi-même.
Ouais, super. C'était important, avec pas de mec pour faire parasite.
Une belle émission.
Ouais.
S'il y en avait un pour écouter.
Et faire babysitter.
Et faire babysitter. Voilà.
Et la numéro 16, c'était la polyaddiction.
Voilà, qui avait été animée par Julien, du
ouais,
coup.
Ouais, et il faudra revenir sur le sujet. C'est un sujet délicat, hein, pas facile de parler de la polyaddiction, des drogues, etc. Mais c'était une belle émission aussi. Bien prenante. Alors. Ouais, dans les émissions, on a parlé aussi, là on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais on parle des rechutes, on parle du suicide aussi hein, dans les groupes de parole, c'est très important parce que ouais, le suicide, les agressions, dont les agressions sexuelles, etc. Moi ce que je dirais c'est qu'a priori dans notre groupe de parole à Blois, là, on s'autorise à en parler.
Ouais, parce que malheureusement que c'est trop tabou.
C'est trop tabou
alors que c'est tellement important d'en parler. Il faut vraiment, parce qu'il faut démystifier ce truc-là, parce que ça fait souffrir. Et ne pas en parler, c'est empirer les choses. Et donc il faut pouvoir en parler en groupe avec des gens qui...
J'ai été surpris, puisque le dernier groupe de parole, le sujet était ça, sur le suicide. On est plusieurs à être concernés, en fin de compte.
Omniprésent. C'est omniprésent.
C'est la dépression via le suicide qui vient ensuite.
Depuis 4 ans, avec Didier, qui est là aussi, et Fabien... on a des copains qui sont suicidés, on a des copains qui ont fait des tentatives de suicide, et nous on s'autorise à en parler, et à dire à la personne, tu as des envies de suicide en ce moment, etc. Et c'est très très difficile. C'est très très difficile. Le suicide, les agressions, les polyaddictions, l'abstinence totale ou pas. Est-ce qu'on dit aux gens, il faut arrêter de boire de l'alcool toute ta vie, ou... Ou est-ce qu'on se cantonne aussi au présent? Le principal, c'est que la personne, elle s'arrête à un moment. Le reste, après, c'est elle qui décide. Hein. On a parlé du plafonnier, de rallumer le plafonnier aussi quand on retouche un tout petit peu d'alcool, soit par un vaporisateur, soit par... parce qu'on a pris un gâteau à l'alcool, parce que, etc. Et...
On se trompe de verre.
Ouais.
C'était le mauvais coca.
Et le cerveau, lui, il dit « Oh, ça y est, on remet ça », et il saute dessus.
C'est parti. Hein.
Et la métaphore du champ de taureau, hein, on dit toujours, hein, quand on a arrêté de boire, c'est comme si on passe devant un champ de taureau dont la porte est ouverte. Si jamais on passe avec un chiffon rouge, les taureaux, ils vont prendre la porte, ils vont passer. Hein. Ben, l'alcool, c'est pareil.
Et puis surtout, s'il y en a un qui passe, les autres risquent de suivre. Quoi.
Eh ben, je vous remercie de, d'avoir discuté de tout ça avec moi. On va donc parler des numéros, des adresses importantes à retenir pour ceux qui s'intéressent.
Ouais, ouais, donc un petit rappel. Donc, le service addictologie de l'hôpital de Blois au 9e étage. Vous pouvez appeler le secrétariat pour prendre un rendez-vous avec le docteur Romain Coste au 02 54 55 67 40. Également les deux infirmières, donc 02 54 55 67 50. Et
65-10 pour l'autre. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc le blog dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Un radeau entre deux eaux, où vous pouvez retrouver toutes ces informations-là.
Ouais, toutes ces informations importantes.
Le XAPA, qui est 2 rue Sainte-Anne à Blois-Vienne, où vous pouvez prendre rendez-vous également pour un suivi. Donc au 02-54-56-15-16. Mmh. Et bien entendu, donc les groupes de parole, celui de Blois, qui se tient à la Maison des Provinces tous les mardis à 11h. Celui de Montrichard qui se déroule où ? J'arrive pas du tout à relire.
Alors Montrichard, c'est l'ITEP de Laudronnière. Excuse-moi, c'est pas bien écrit. L'ITEP de Laudronnière.
Ok.
Favrol-sur-Cher.
Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est tous les deuxième et quatrième mercredis du mois, donc de 16h30 à 18h30. Et il y a ensuite à Saint-Aignan, donc au foyer de la salle des fêtes, c'est 45 rue. Alors, tu n'écris pas bien du tout, Olivier.
c'est Constant Rago, rue 45 rue Constant Rago, les premiers et troisièmes jeudis du mois, 15h30 à 17h30. Tout ça, c'est à reconfirmer sur le blog, hein, comme disait Nina, ouais. Un radeau entre deux eaux. Pour les accompagnants, je disais, les familles, les parents, les conjoints, consultez le site al-anon sur Internet et vous aurez toutes les infos. Toutes les infos sur c'est important, hein. N'hésitez pas à aller consulter ce site-là.
Ouais.
Eh ben, on va conclure. Hein. Je vous remercie tous. Lucie, merci pour la technique, super. Merci à tous d'avoir été là.
Ouais.
C'était vraiment génial.
On va se faire un plaisir de faire des émissions pour cette nouvelle saison de 2022-2023.
Ouais, super.
Sur 91.10, Olivier.
Merci. Hein, on l'avait pas dit. On l'avait pas dit.
On l'avait pas dit encore.
Les podcasts sur studiozef.fr. N'hésitez pas. Livraise des échanges. Hein. Générique, okay, Lucie.
Générique.
Je dis au revoir à nos chers auditeurs.
Merci, avec, Fabien.
Peut-être petite citation que j'aime bien. Aime-toi et la vie t'aimera.
Très bien.
Super.
Bravo.
L'ivresse des échanges.
Alcoolisme.
Groupe de parole.
L'expérience.
Espérance.
L'ivresse des échanges.